Chapitre 13. Roman s'assit à côté du lit d'hôpital et passa le bras sous la barrière escamotable pour attraper la main glacée de son père. Il faisait très frais en cet après-midi, ce qui, pour une première quinzaine de septembre, était inhabituel en Virginie. Roman ne croyait ni aux signes ni aux présages, mais ce froid précoce avait quelque chose de troublant. On aurait dit que Dame Nature elle-même leur avait tourné le dos pour offrir à l'hiver une approche anticipée du corps de Gaïa. La nuit, le froid et la mort étaient à la porte. « Arrête !» dit-il. Il regarda son père, examina son visage en quête de la moindre réaction, mais ses traits étaient figés, et sa peau aussi lisse qu'un morceau d'obsidienne. D'après Nevea, la mutuelle rembourserait l'équivalent de 6 mois de soins intensifs. Après quoi, il devrait se débrouiller seul. Bref, le légendaire système de santé américain allait les abandonner, tout comme il avait déjà sacrifié d'innombrables familles à travers le pays. À moins que, dans un geste de compassion, ils ne laissent leur père partir avant. Serait-ce de la compassion? Roman songea que Keith Carruthers ne serait certainement pas de cet avis. Il pensa à Oscar Conley et se demanda ce que ses proches avaient fait de ses cendres. Cet homme auprès de qui sa mère avait cherché le réconfort et l'affection que son mari ne lui donnait plus, et dont elle avait tant besoin. Il y avait quelque chose de paradoxal à ce que quelqu'un qui commandait au feu puisse se montrer aussi glacial. Et pas seulement avec sa femme. Ses enfants aussi en avaient fait les frais. Roman aurait voulu retrouver les cendres de Conley, s'enfermer avec dans un taudis abandonné du Skids et les répandre par terre, au milieu des détritus. Une manière de venger son père, mais surtout un geste cathartique qui lui ferait du bien à lui, ne serait-ce que pour quelques instants, car sa mère n'était plus là pour répondre à ses questions et écouter ses reproches. Si Roman devait un jour avoir des enfants, il ferait tout pour qu'ils n'apprennent jamais les éventuelles infidélités de leur père ou de leur mère. Les enfants n'avaient pas à savoir comment leurs parents assouvissaient leur passion. Était-il encore en colère contre sa mère? Il l'ignorait, mais peu lui importait. Cette colère ne pesait pas bien lourd à côté de l'amour qu'il ressentait pour elle. De la même manière que la déception que lui inspirait son père était insignifiante comparée à la gratitude qu'il éprouvait pour lui. Il retira sa main, se leva et effleura le visage de son père. Il était froid. Il se pencha au-dessus du lit et lui déposa un baiser sur le front. « Je t'aime, papa », murmura-t-il. Keith Carruthers n'eut aucune réaction, ce qui lui ressemblait bien. Roman pouvait compter sur les doigts d'une main les occasions où son père lui avait dit qu'il l'aimait. Le jour de sa remise de diplôme, à la fac, la fois où il avait survécu à un accident de voiture à Atlanta, et ce jour-là. D'ailleurs, c'était en ce jour fatidique que les mots avaient franchi pour la première fois les lèvres paternelles. Roman quitta l'hôpital et se rendit au crématorium. Il actionna la sonnette et presque immédiatement, Nevea ouvrit la porte. « T'étais où ?» s'enquit-elle en marchant jusqu'à son bureau pour récupérer les clés de son pick-up ainsi qu'une enveloppe en papier Kraft. « Les services de l'administration ferment à 15h, merde !»« Je suis allé rendre visite à papa. Désolé, j'ai pas eu le temps passer. »« Bon, il y en a deux au four. Et Weldon Travis du funérarium Jackson Brothers doit en livrer un gros dans l'après-midi, pour une crémation immédiate. » Il va avoir besoin d'un coup de main. Je file. Alors que Nevea se dirigeait vers la porte, Roman lui lança. Tu comptes pas me demander comment il va? Nevea se tourna vers lui. S'il y avait du mieux, tu me l'aurais déjà dit, répliqua-t-elle. Et elle sortit. Roman avait nettoyé le deuxième four et venait d'empaqueter les cendres lorsqu'il entendit la sonnette. Sûrement Weldon qui préférait s'assurer qu'il y avait bien quelqu'un pour l'accueillir, histoire de ne pas avoir à manœuvrer pour rien. Lorsqu'il ouvrit la porte, il constata que ce n'était pas Weldon qui se tenait sur le seuil, mais un noir au physique élancé et aux cheveux poivre et sel, coiffé à la brosse. « Vous devez être Roman ?» dit l'arrivant en lui présentant son insigne. « Je suis l'inspecteur Chauncey Mansfield, un ami de votre sœur. Elle m'avait prévenu que vous seriez là. Ça ne vous embête pas si je rentre quelques instants ?» Roman l'examina. L'homme portait une veste brune par-dessus un pull à col roulé noir, un jean et une paire de mocassins. N'était le pistolet à sa ceinture, il aurait pu passer pour un professeur de philosophie. Il n'était pas intimidant, contrairement à la majorité des policiers que Roman avait été amené à rencontrer à Atlanta parce qu'ils enquêtaient sur ses clients. Ceux-là étaient souvent des mastodontes, dopés aux stéroïdes, qui acceptaient les pots de vin avec un tel naturel que c'était à croire qu'on le leur enseignait à l'académie. Ainsi, on pouvait acheter leur silence pour 10 000 $ si on se faisait contrôler en état d'ébriété, pour 50 000 $ en cas de violence conjugale, et pour les délits les plus graves, tant qu'il ne s'agissait pas d'un homicide volontaire, on pouvait s'en tirer dans les 100 000 ou 200 000 $. En revanche, Chauncey avait des yeux de prédateur. Le regard insatiable de celui qui veut tout pour lui et qui ne donnera rien en retour. Il s'était présenté comme un ami de Nevea, et Nevea l'avait également désigné comme tel. Sauf que Roman n'était pas né de la dernière pluie. Il était prêt à parier que cet homme avec son alliance en or couchait avec sa sœur. Nevea avait toujours eu un faible pour les bad boys qui ne montraient aucune émotion. À l'époque où ils se parlaient encore à cœur ouvert, elle lui avait confié que le moyen le plus sûr qu'elle avait trouvé de ne pas souffrir, c'était de ne pas tomber amoureuse. Il se demanda si elle le pensait toujours, ou si elle se berçait désormais d'illusions. « Pas du tout, inspecteur, » répondit Roman. « Entrez. » Il s'installa dans le fauteuil du hall d'accueil, et après s'être assis sur le petit canapé situé juste en face, Chauncey rempocha son insigne et prit quelques instants pour regarder autour de lui. Impossible de deviner qu'on se trouve dans un crématorium, commenta-t-il. On se croirait dans la salle d'attente d'un médecin des beaux quartiers. Il espérait sûrement un rire poli, mais Roman ne lui fit pas ce plaisir. C'était rare qu'il déteste quelqu'un au premier regard, mais il y avait chez ce type quelque chose qui lui inspirait le plus profond mépris. Il faut dire qu'il avait déjà été amené à côtoyer ce genre d'individu au gré de ses réunions de travail. Des gens qui enfilaient un costume de baratineur, en pensant que cela suffirait à dissimuler leur égocentrisme. Malheureusement pour Chauncey, son costume était rongé par les mythes, et Roman n'avait aucun mal à voir ce qui se cachait dessous. Comme Roman ne riait pas, le policier reprit. « Bon, votre sœur m'a raconté que l'autre soir, vous et votre frère vous étiez fait agresser. » « Oui. » Trois types nous sont tombés dessus alors qu'on venait de fermer la boutique. Dante était passé me donner un coup de main. Notre père est à l'hôpital, donc on essaie d'aider Nevea quand on le peut. Un accident avec délit de fuite, c'est ça? Mes collègues sont toujours sur le coup. Est-ce que vous avez pu voir vos agresseurs? Non, il faisait noir. Donc voilà, ils nous sont tombés dessus. J'ai reçu un direct au visage qui m'a fait sauter 4 dents. Après ça, ils s'en sont pris à mon frère. Ils lui ont coupé un doigt, qu'ils ont ensuite écrasé à coups de talon. Roman savait qu'il valait mieux utiliser un maximum d'éléments véridiques pour construire son mensonge. Est-ce qu'il portait des masques? S'enquit Chauncey. Je serais incapable de vous le dire, je m'en souviens pas. Vous n'avez pas l'air plus inquiet que ça. Ces types vous ont tabassé comme un esclave en fuite. Ils ont sectionné le doigt de votre frère et vous me racontez ça avec autant de détachement que si vous récitiez une liste de courses. J'ai appris à relativiser. Chauncey se pencha en avant. Je vais être franc avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire ne m'intéressait pas beaucoup. Ni vous ni votre frère n'avez porté plainte, ce qui ne peut signifier que 2 choses. Petit A. Vous avez l'intention de vous faire justice vous-même, ce qui est une très mauvaise idée, même si vous faites bien ce que vous voulez. Petit B, vous avez décidé de passer à autre chose, ce qui n'est pas sans conséquence non plus, soit dit en passant. Sauf qu'entre-temps, j'ai reçu un appel, m'informant qu'un certain John Paul Matthias Getty avait disparu. Est-ce que vous connaissez Monsieur Getty, Roman? Malgré son cerveau en ébullition, Roman s'efforça de rester impassible. J'ai entendu mon frère mentionner son nom 1 fois ou 2, oui. Je crois qu'ils sont amis. Après, vous savez, ça ne fait que quelques jours que je suis ici. Je suis au courant. Vous résidez à Atlanta, où vous dirigez la société Carruthers & Associates. Je dois reconnaître que votre liste de clients est impressionnante. On dirait le premier rang de la cérémonie des BET Awards. Roman se contenta de hausser les épaules. Figurez-vous qu'il arrivait à M. Getty de travailler pour nous, reprit Chauncey. La seule raison pour laquelle je partage avec vous cette information confidentielle, c'est que j'ai de gros doutes qu'on le revoie un jour. Tout porte à croire que quelqu'un est entré par effraction dans la maison qu'il louait sur Sledmore Street, dans un quartier que certains surnomment le Skids. Ce quelqu'un a donc fracturé la porte avant de tout défoncer à l'intérieur. Alors arrêtez d'essayer de m'enfumer, d'accord ? Votre sœur est une bonne amie à moi, c'est pour ça que je vous rends cette visite de courtoisie. Votre frère fréquentait un de nos indiques, et comme par hasard, cet indique a disparu au moment où vous vous faisiez tous les deux démolir. Bref, je vous suggère de me dire tout ce que vous savez avant que ça se termine vraiment mal. À l'évidence, Chauncey essayait de passer pour un dur. C'était raté. Il était aussi crédible qu'un enfant jouant aux policiers et aux voleurs. À son tour, Roman se pencha vers son interlocuteur. Est-ce que Nevea vous a déjà parlé de notre mère ? Non, bien sûr que non, quel intérêt. Tout le monde connaît cette histoire. Eh bien, quand notre mère a disparu, on s'est juré de prendre soin les uns des autres. On voulait enlever un poids à notre père. Quelque temps après la disparition de notre mère, donc, un gosse a commencé à harceler Nevea. Tous les midis, il lui piquait son sandwich. Avec Dante, on a proposé à notre sœur de l'aider, et au bout d'un moment, elle a accepté. Parce qu'il y a nous trois et rien que nous trois. On se serre les coudes. Il se redressa sur son fauteuil. Ce gosse-là, il était beaucoup plus costaud que Dante et moi. Même en s'y mettant à deux, on n'avait aucune chance. Du coup, on est allé trouver un autre gros balèze, une espèce de bourrin décérébré qui s'appelait Roland Rundgren. Et discrètement, on lui a volé son vélo. Ensuite, je suis allé me balader devant chez le gosse qui harcelait ma sœur, et, sans surprise, cet abruti m'a bousculé et m'a piqué le vélo. Sauf que, précisément 19 minutes plus tôt, j'avais demandé à Dante d'aller dire à Roland qu'il savait qui était le voleur. Pendant un mois, le gosse qui raquettait Nevea a mangé son déjeuner avec une paille. « Nous trois, et rien que nous trois », répéta Roman en se levant. « J'aime ma sœur, j'aime mon frère. » Et quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Les gens qui s'en prennent à nous, qui s'en prennent à mon frère, qui s'en prennent à ma sœur. Il laissa sa phrase en suspens quelques instants. Ces gens finissent tôt ou tard par croiser la route d'un Roland Rundgren, ajouta-t-il, avant d'aller ouvrir la porte. Je dirai à Nevea que vous êtes passé. Chauncey se leva avec un grognement. Si ça vous amuse de jouer les caïds, commenta-t-il. J'espère que je n'aurai pas à demander à votre sœur de venir identifier vos cadavres. Bon après-midi. Dès que Roman eut verrouillé la porte, il se laissa glisser sur le sol. Getty était un indique. Heureusement, il avait dû se faire enlever avant d'avoir le temps de balancer aux flics ce qu'il magouillait avec Dante et les Black Baron Boys. Une chance qui leur offrait un sursis et qui pourrait peut-être permettre à Roman de mettre de l'ordre dans le chaos que la naïveté de Dante avait causé. Puis d'aller retrouver sa vraie vie à Atlanta. Parce que là, il n'était pas à sa place. Adossé contre le métal froid de la porte, Roman repensa à l'option de mécanique qu'il avait suivie à la fac. Pour déplacer une charge lourde, il fallait d'abord trouver un pivot. Pour briser en deux un énorme rocher, il fallait d'abord trouver le point de faiblesse, l'endroit où la pierre était naturellement la plus vulnérable. Khalil serait son pivot. Ensuite, entre Yellow Boy qui était parti au milieu de la soirée et Getty qui se révélait être un indique, Roman songea qu'il avait peut-être deviné le point de faiblesse des Black Baron Boys. Restait désormais à trouver un moyen de l'exploiter pour faire céder le rocher. Juin 2003, matin. Dante descend l'escalier en trombe et bouscule Nevea. Au moment où celle-ci attrape son sac de sport pour la compétition d'athlétisme. « Hey, tu vas où comme ça ?» lui lance-t-elle, alors que Dante a déjà la main sur la poignée de la porte. « Faire un basket avec Charlie et Stéphane ?»« Papa dit qu'on devrait tous prendre un petit déjeuner, donc d'abord tu manges. Maman ne rentre pas avant 10 heures. En plus, tu sais que tu finis toujours par être malade quand tu fais du sport le ventre vide. »«
Elle a raison, » approuve Roman. Vautré
sur le canapé devant un énorme bol de céréales, une manette de console à la main. « Souviens-toi comment t'as vomi la dernière fois. »«
Tu vérifies qu'il mange, hein ?»
insiste Nevea. De mauvaise grâce, Dante s'assoit, se sert des céréales avec du lait et porte la cuillère à sa bouche.
« Maman risque d'être crevée quand elle rentrera, alors pensez à faire votre vaisselle !»
ajoute Nevea. Elle ouvre son sac pour s'assurer qu'elle n'a pas oublié ses pointes, son uniforme de compétition ou sa tenue d'échauffement siglée d'un cerf rouge et de l'inscription « Jefferson Run Athlée ».
« T'inquiète, ça sera fait !» répond l'aîné. « Et dépêche-toi, le père de Suzy va partir sans toi !»«
N'oubliez pas la vaisselle !» répète Nevea en se dirigeant vers la porte.
« Au fait, bonne chance pour aujourd'hui !»
lui lance Roman.
« Ouais, bonne chance, banane !»
renchérit Dante. Nevea se tourne vers ses frères, étudie leur visage à la recherche de quelque chose dont elle ne connaît pas encore le nom. Plus tard, en y repensant, il lui semblera que le mot qu'elle cherchait était « hypocrisie ». Mais elle se souviendra aussi de ne pas en avoir trouvé la moindre trace. Ses frères étaient sincères. Ils voulaient vraiment qu'elle gagne.
Merci les nulos.
C'est la dernière compétition de l'année. Sa mère ne peut pas être là parce qu'elle termine tout juste sa 5e nuit d'affilée à l'hôpital. Son père ne peut pas être là non plus parce qu'il continue à travailler à mi-temps chez Jackson Brothers, en attendant que l'activité du crématorium décolle pour de bon. Mais tous les trois sentent que ce sera pour bientôt. Leur père est déterminé. Ils savent qu'après quelques heures de sommeil, leur mère se rendra à la boutique pour aider leur père et Oscar. Oscar qui surnomme Roman champion, Dante Minus et Nevea Minimis. Oscar que Roman surprend parfois à regarder leur mère plus longtemps qu'il ne le devrait. Du haut de ses 16 ans, c'est quelque chose qu'il perçoit. Nevea, elle pense que c'est simplement un petit béguin innocent. Et il y a de quoi avoir le béguin. Leur mère est sublime. D'ailleurs, leur père la surnomme Mab, pour ma beauté. Et c'est là la plus grande marque de tendresse qu'ils l'ont jamais vue manifester. Il faut dire que Kiss n'est pas un expansif. Mais cette tendresse est sincère. Ils le savent, ils le sentent. C'est quelque chose de chaud et d'éclatant, qui vient d'une partie reculée du cœur de leur père que peu de personnes peuvent espérer toucher un jour. Après le départ de Nevea, Dante s'approche de la fenêtre. Il observe sa sœur qui descend les marches pour rejoindre la voiture du père de Suzy Pettigrew, garée dans l'allée. C'est une vieille berline, même si Dante ne connaît pas encore l'existence de ce mot. Il regarde Nevea monter à l'arrière et s'esclaffer à quelque chose que lui dit sa copine. Il ne le sait pas, mais il ne reverra pas sa sœur rire avant très longtemps.
« Je vais au terrain de basket »
annonce-t-il.
« T'as fini tes céréales ?»
lui demande Roman, plus concentré sur son jeu vidéo que sur son frère. En réalité, même la console n'occupe qu'un quart de son attention. Tout le reste, ce qui accapare l'essentiel de ses pensées et de ses rêves nocturnes, c'est Delia Cochrane. Elle habite un peu plus loin dans ce quartier où Roman et sa famille commencent à trouver leur marque. Delia a de longues tresses, comme Janet Jackson dans le film que leur mère adore sur une coiffeuse qui écrit des poèmes. Delia a la peau plus sombre que la chanteuse, mais elle a à peu près le même physique, et surtout un sourire à côté duquel Janet peut aller se rhabiller. Dans une heure, Delia doit le rejoindre. Son père travaille à la tôlerie à côté du crématorium et ne termine pas avant 17 heures. Sa mère s'est absentée pour prendre soin de la grand-mère de Delia. Ils ont toute la journée devant eux. Il est stressé. Delia prétend l'avoir déjà fait plusieurs dizaines de fois. Roman ne l'a jamais fait, mais il n'arrête pas d'y penser.
« J'ai plus faim, » dit Dante. « J'y vais. »«
Oublie pas de revenir avant la nuit, » lui rappelle Roman. « Maman va nous mettre une volée à tous les deux si tu te fais surprendre par les réverbères. »
Roman commence tout juste à s'habituer à la présence des réverbères. Avant, quand ils habitaient dans le Skids, ces grands mâles lumineux étaient une espèce quasiment inconnue. Dans les années qui viendront, Dante oubliera qu'il a vécu un jour dans un endroit où les lumières ne s'allumaient pas le soir venu. Les souvenirs du Skids s'estomperont, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus accès que dans ses cauchemars. Et même eux, il ne s'en rappellera pas, parce que d'autres horreurs s'apprêtent à hanter ses rêves et à occuper toute la place.
T'inquiète, promet Dante.
Roman ne le sait pas encore, mais une série d'événements imprévisibles vient de débuter. Les dés ont été jetés, le Rubicon a été franchi, et une ombre épaisse va bientôt se poser sur leur vie pour ne plus jamais se lever. Une nuit infinie qui va les envelopper de son étreinte glacée.
Roman tourne la tête vers la fenêtre et voit son frère enfourcher son vélo.
Le soleil matinal baptise à la fois le pêcheur et le saint. Avant la fin de la journée, Roman, Dante et Nevea auront croisé la route de l'un et de l'autre.